BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous leur consacrerons la première partie de notre émission. Puis vous retrouverez nos critiques, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, et Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, vous fassent découvrir leur choix de livres d'ailleurs et de livres d'avant. N'oubliez pas notre page Facebook, notre compte Twitter, sur lesquels vous pouvez trouver les programmes, vous pouvez réagir, et puis n'hésitez pas, si vous trouvez des livres, des pépites que nous n'avons pas remarquées, eh bien, signalez-les nous. On démarre tout de suite avec nos auteurs. La librairie de l'écho, elle mériterait plutôt aujourd'hui de s'appeler la librairie de l'économie politique. Pour comprendre cette déroutante campagne électorale que nous vivons, la remettre en perspective sur le plan historique, notamment pour évaluer si la France entre dans une nouvelle ère politique, pour comprendre quel est le rôle des sondages et quels sont vraiment les ressorts des campagnes électorales. Nous accueillons aujourd'hui deux invités. Le premier, Alain Garrigou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire et de sciences politiques, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, et vous publiez une somme, La politique en France de 1940 à nos jours, aux éditions La Découverte. Notre deuxième invité, c'est Bruno Jérôme. Bonjour Bruno.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris 2 et vous êtes le cofondateur du site Electionscope avec Véronique Jérôme, avec qui vous co-signez La victoire électorale ne se décrète pas. C'est publié chez Economica. On démarre avec vous, Alain Garrigou. Alors, un de vos grands chapitres s'intitule 1940-2016, d'une crise à l'autre. Et quand vous décrivez en fait l'engrenage des années 30 qui a conduit au régime de Vichy, bah, on a l'impression qu'il y a énormément de similitudes entre finalement cette période des années 30 et aujourd'hui.
Oui. Je pense que dans les deux cas, on peut parler de sociétés bloquées, pas pour les mêmes, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Mais en gros, alors on va dire que les arrangements entre la classe politique républicaine et leur électorat, l'électorat de ses députés, qui était notamment d'un électorat rural, a fait que on protégeait les campagnes par le protectionnisme, par des tarifs à la consommation élevés qui permettaient au petit commerce de prospérer, jusque dans les années 50, hein, jusqu'après la guerre. Bon. Et alors qu'aujourd'hui, eh bien, c'est plus du tout la même configuration, évidemment. Mais les écarts de richesse, de patrimoine, de revenus et les blocages de chacun sur ses positions, c'est-à-dire le refus, par exemple, de toucher les avantages acquis, c'est entre guillemets, je ne prends pas forcément la chose pour moi. Et puis d'autre part, le point de vue qui est celui de ceux qui gagnent plus et qui pensent surtout à préserver leurs revenus, fait que chacun campe sur ses positions. Et que dans ce cas-là, notamment dans une société qui est relativement conflictuelle, il est difficile de faire bouger les choses, comme on s'en est aperçu à plusieurs reprises.
Si vous deviez identifier les grands moments de rupture de la vie politique française depuis cette période années 30-1940, qu'est-ce que vous identifieriez vraiment comme date marquante ?
Alors, il faut pas être prisonnier des dates, ça serait plutôt des moments. Les moments pour comprendre. Par exemple, on identifie les ruptures avec des changements institutionnels. On n'a pas tort, mais on n'a pas complètement raison. Par exemple, 1958, c'est le début de la Ve République. Ouais. En fait, c'est 1958-62, c'est-à-dire le temps où les Français ont mis pour comprendre que l'empire colonial c'était fini, et c'est en 62 que ça se termine véritablement. Bon, voilà une rupture. Il y a une autre rupture après ce qu'on appelait les 30 glorieuses, qui ne sont pas 30 années mais plutôt 20. C'est on va dire c'est 81, où encore arrive un président, un gouvernement qui sont sur des positions néo-keynésiennes de relance de l'économie, qui sont arrêtés parce qu'on a appelé le tournant de l'austérité en 1980. 83, alors les historiens en débattent, etc., mais entre 83, on va dire, et 86, quand il y a un premier gouvernement de cohabitation, qui est, là arrive, c'est celui de Jacques Chirac, qui arrive avec une politique inspirée par les Rigomaniques. Riganomics, allons-y. Enfin, plutôt par Madame Thatcher, en l'occurrence. Hein. Ouais. Bon. Et donc, et qui va d'ailleurs échouer très rapidement, parce qu'il y a d'autres enjeux, notamment une élection présidentielle proche.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on est à un tournant important de notre vie politique, ou bien est-ce que c'est juste cette campagne qui est pauvre en débat, en idées, pas en scandale, entre guillemets. C'est quoi votre vision sur le moment présent, le moment qu'on vit ?
Alors, on a longtemps dit qu'on avait des institutions qui étaient peut-être pas magnifiques, mais qui enfin apportaient la stabilité par rapport aux précédentes républiques. Bon, très bien. Bah, il semblerait que non, que justement, ce soit une sorte de machine de casino qui produise un peu n'importe quoi. Tout tourne autour des personnes, à tel point qu'aujourd'hui, dans des partis, si vous voulez, qui désignent leur chef à la tête d'un gouvernement, le système qu'on appelle primo-ministériel. Si le chef du parti échoue, il y a quelqu'un qui va arriver tout de suite. Là, aujourd'hui, avec l'investiture présidentielle qui est apparue comme depuis De Gaulle, enfin c'est le général De Gaulle qui l'a quand même voulu avec d'autres, bien évidemment, comme ressource de stabilité, de force politique, ça devient au contraire une cause de fragilité politique. On le voit bien aujourd'hui, je veux dire quand même quelques mois avant l'échéance, on est dans la confusion la plus complète.
Quand vous entendez aujourd'hui des candidats dire qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche, est-ce que ça a un sens pour vous ? Est-ce qu'on a déjà eu ce genre de positionnement dans la vie politique française, ou bien est-ce que c'est nouveau ?
C'est surtout pas nouveau. Dans les années 30, tout le monde dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, et même il y a quelques fascistes qui le disent dans les années 30. Hein, c'est un des grands thèmes, ni droite ni gauche, de l'entre-deux-guerres. Alors c'est un thème carrément inquiétant. À un double titre. Premier titre, c'est l'inculture de ceux qui lancent encore ce genre d'idées. Ils devraient revenir aux années 30 pour comprendre. Deuxième point, pour comprendre, c'est un peu louche. C'est même inquiétant de se réclamer d'une ni droite ni gauche. Alors que les clivages aient changé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple, les clivages se sont atténués. Incontestablement, l'idée même d'une cohabitation, puisqu'il y en a quand même eu trois, hein, bon, ça n'était pas possible avec des clivages aussi forts qu'auparavant. Forcément, quelqu'un a mis de l'eau dans son vin, si on peut dire. Et en gros, c'est à peu près tout le monde qui a mis de l'eau dans son vin.
Pourquoi nos partis ont tant de mal à évoluer ? Quand on voit la gauche qui, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays européens, a quand même mué vers une gauche un peu plus gestionnaire, nous, on a encore ce qu'on pourrait appeler une résurgence de gauche dure, quasiment communiste, j'ai envie de dire, utopiste. On va dire, comment vous expliquez ça ?
Alors, il y a un clivage au sein de la gauche qui passe à l'intérieur d'un parti qui est le principal parti, ou qui passe en dehors de lui, c'est-à-dire à sa gauche, on va dire, hein, pour parler simple. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Le problème, c'est un problème d'équilibre, ça, c'est-à-dire des compensations, jusqu'où ça va. J'ai pas arbitré leurs problèmes. Je me sens pas complètement concerné. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'un parti qui, de toute façon, a toujours été divisé, entre des aspects utopistes, parce que le radicalisme à gauche, ça me paraît plutôt relevé du passé aujourd'hui. Hein, si on relève ce qui était la gauche radicale du Parti communiste dans les années 60 ou 50 même, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que malgré le rapprochement des extrêmes, on va dire, au sein de la gauche, ces extrêmes n'étant plus beaucoup extrêmes, il se trouve que l'expérience du pouvoir a considérablement centré, si vous voulez, la politique de gauche, et qu'il y a un certain nombre de gens qui préfèrent à gauche être dans l'opposition, avoir la liberté de critique, plutôt que de voir couvrir...
À l'inverse, est-ce qu'il y a eu des vraies expériences libérales ?
Ben, il y a eu trois tentatives et trois échecs. D'ailleurs, ça devrait faire réfléchir. La première, c'est celle de Jacques Chirac, alors pour le coup, qui imite Madame Thatcher, qu'il déteste par ailleurs. Et puis ça échoue parce qu'il y a une élection présidentielle qui approche et il est impossible de faire, de mener à bien, par exemple, le programme de privatisation. Monsieur Balladur en 93 reprend. Et là, exactement les mêmes raisons, hein, des aspects financiers, c'est-à-dire la chute des actions qui sont mises sur le marché des entreprises nationales, et puis d'autre part la proximité de l'élection présidentielle et quelques scandales, faut jamais oublier, amène M. Balladur à arrêter son programme néolibéral. Et puis il y a la tentative, on pourrait même parler peut-être de M. Juppé, mais il y a surtout la tentative de Nicolas Sarkozy qui est intéressante parce que.
Mais qui bute aussi encore une fois sur une crise.
Alors là c'est clair et net. Là pour cette fois-ci il y a le temps.
Mais Balladur aussi, on peut le dire. Finalement il y a une espèce de malédiction.
Oui.
Du libéralisme en France.
On peut dire qu'il y a une malédiction du libéralisme en France, oui, quelque chose comme ça. Mais la crise de 2008, qui en fait est de 2007, donc l'année, quelques mois après l'élection de M. Sarkozy, l'amène à adopter finalement la politique inverse de celle qu'il avait promise.
Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle l'ubérisation de la politique ? C'est-à-dire, en gros, des hommes politiques qui, plutôt que d'élaborer finalement une vision, des programmes, s'en remettent au peuple en finalement demandant son avis. Ça a un peu démarré avec Désir d'avenir de Ségolène Royal. On voit qu'Emmanuel Macron a fait la même chose. Est-ce que pour vous, ça paraît une bonne idée ?
Alors. Il y a une idée qui est dans l'air, enfin, tout le monde se réclame aujourd'hui des élections, tout le monde veut plus d'élections. Alors, il y a non seulement, il y a les primaires. Tout le monde veut faire des primaires, même les petits partis. Ou presque, tout le monde. Il y a, par exemple, des candidats qui parlent de pétitions pour lancer des référendums. De toute façon, en France, depuis déjà 1979, on a multiplié les élections. Alors, l'idée que tout va être résolu à base d'élections, alors d'abord c'est inquiétant parce qu'il y a des sujets peut-être où ceux qui proposent ce genre de mesures ne se rendent pas compte qu'ils ouvrent la porte à des catastrophes. Hein. Il n'est pas sûr que le peuple ait toujours raison, comme disait Lamartine. Hein, bon. Et surtout si c'est sans préparation. Alors c'est une forme de dépossession des politiques. Moi j'appelle ça la politique autophage. C'est-à-dire que pour gagner les trophées, on est prêt à toutes les concessions et notamment abandonner les principes de responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, les résultats d'une politique, ça ne s'évalue peut-être pas un mois après. Peut-être c'est la fin d'une législature qu'on peut dire si un gouvernant a bien fait ou pas bien fait. Alors que cette instantanéité, c'est vraiment à courte vue.
Oui, mais ce raccourcissement du temps politique, alors il s'explique aussi par la montée en puissance des sondages, qui ont pris une place absolument incroyable. Les premiers sondages, c'était une photographie finalement de l'opinion, et c'est devenu finalement une espèce de boussole pour tous les hommes politiques.
Ben oui, c'est parce qu'il y en a beaucoup plus déjà. Nous sommes les recordman du monde, semble-t-il, mais nous sommes les recordman du monde sur un autre point, c'est sur notre crédulité. C'est-à-dire que dans aucun autre pays du monde, même s'il y a beaucoup de sondages, comme aux États-Unis, les politiques, les journalistes y croient autant qu'en France. Et c'est ça le problème, c'est l'inflation en France.
Mais vous allez plus loin, vous dites, ils ont une influence sur le résultat de l'élection. C'est-à-dire que le résultat de l'élection n'aurait peut-être pas été le même si on n'avait pas eu les sondages que si on avait eu les sondages.
Ah oui, et puis de toute façon, là déjà, on a des preuves. Je veux dire, il y a un cas remarquable qui est quand même celui de 2002. Celui de 2002, il faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire que si M. Jospin n'a pas négocié le retrait de certaines candidatures à gauche, c'est parce que les sondages le donnaient toujours au second tour et toujours premier au deuxième tour. Et que donc, il s'est dispensé des tractations qui se seraient jouées s'il y avait eu incertitude sur le résultat.
Bruno Giraud, vous avez vu ce que dit Alain Garrigou des sondages. Vous, finalement, vous dites pas quelque chose de très différent. Alors, je vais caricaturer votre propos, vous pourrez le corriger à dessein, mais grosso modo, moi, quand je lis votre livre, Bruno Giraud, ce que je comprends, c'est que finalement, les stratégies de campagne fondées sur la manipulation, entre guillemets, la gestion des sondages, fondées sur les recettes miracles des spin doctors, tout ça sert à rien, et même si je caricature, la campagne électorale, elle ne sert à rien.
Alors, on va être un peu plus mitigé, mais je ne retire rien à ce qu'a dit Alain Garrigou. Avec les sondages aujourd'hui, on est manifestement à la course de petits chevaux. C'est-à-dire qu'on est arrivé dessus, dès que quelqu'un bouge de 0,5 points, ça y est, ça fait un drame dans le Landerneau, on commande pendant des heures. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que les sondages, effectivement, ne vont pas modifier fondamentalement le cours des choses. Si ce n'est que, de plus en plus, les sondages servent à sélectionner les candidats. Et en même temps, c'est un outil aux mains des spin doctors, tout simplement à grands coups de storytelling, de marketing politicien. J'utilise l'expression de bon grand pour ça, et non pas le marketing politique, mais le marketing politicien.
Marketing politicien, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de cibler Absolument. Des populations et, oui. de trouver les arguments pour les séduire.
C'est de la manipulation cynique, en réalité, qui cherche à faire venir vers vous des électeurs. Autrement dit, la politique est devenue une vente de paquets de lessive, on essaye de placer du produit. Alors, est-ce que les sondages, fondamentalement, vont modifier les choses? Oui, quand c'est très serré. Oui, quand c'est très serré, effectivement, ça peut avoir un rôle. Et oui, pour sélectionner les candidats. C'est incontestablement. Maintenant, si on regarde l'écart entre les sondages qu'on peut appeler prédictifs en tendance et, par exemple, les résultats réels, on s'aperçoit qu'il y a souvent un écart. Et bien souvent, d'ailleurs je termine là-dessus, les meilleurs sondages, ce sont ceux qui sont finalement publiés au mois de décembre. Autrement dit, quand on purge la tendance de tout le bruit médiatique qui a lieu entre le mois de janvier et le mois d'avril, effectivement, très souvent, on s'aperçoit que les sondages de décembre donnent un résultat qui est relativement proche de l'arrivée. Alors du coup, c'est le titre de notre bouquin, la victoire électorale ne se décrète pas, nous, c'est ce qu'on affirme, parce qu'effectivement, beaucoup croient qu'elle se décrète.
Oui, c'est en gros, il y a des recettes miracles, tacticiennes, qui vous permettent de gagner. Parce que vous dites finalement... On ne gagne pas une élection parce qu'on a un bon baril de lessive. On ne gagne pas une élection parce qu'on a un bon programme. Mais sur quoi les électeurs se déterminent-ils?
Alors justement, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a complètement oublié les fondamentaux. Autrement dit, pourquoi y a-t-il une crise du politique? Alors là, je vais réagir un peu en économiste. C'est parce que depuis 40 ans, les politiques n'ont pas de résultats. N'ont pas de résultats tangibles, n'ont pas de résultats effectifs. Depuis 40 ans, les annonces ne correspondent pas aux résultats réels. Depuis 40 ans, il y a une certaine incohérence temporelle par rapport à ce qu'on annonce et par rapport aux résultats que l'on a. Alors du coup, effectivement, la politique se vide de son sens et finalement, comme on ne croit plus aux résultats possibles, eh bien on finit par s'en remettre à différents indicateurs, type sondage, type storytelling, etc. Et donc finalement, on oublie complètement les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? Alors là, c'est l'économiste qui parle, mais c'est évidemment, je le répète encore une fois, des résultats tangibles, ressentis, et généralement, faire en sorte que ce qu'on a annoncé soit en adéquation avec, effectivement, ce qui est produit à l'arrivée. Mais ça, on l'a oublié.
Alors, les programmes, à quoi ils servent, donc, finalement? À rien, parce que vous dites, vous, votre raisonnement, il est très clair. Vous dites, finalement, le bilan du sortant compte davantage dans la décision des électeurs que le programme de son concurrent.
Bien sûr. En réalité, les programmes... Bon, une chose est claire, il en faut un. Il en faut un parce qu'un programme, c'est votre marqueur politique. Autrement dit, il y a deux ou trois idées dans un programme qui vous distinguent de votre concurrent. Donc ça, c'est indispensable d'en avoir. Maintenant, les électeurs savent très bien qu'entre ce qui est annoncé effectivement dans les programmes et ce qui va être appliqué, il y a toujours un gap. Et le gap, d'ailleurs, il est tout simplement du fait que les programmes reposent, quand ils sont chiffrés, sur des prévisions de croissance, et systématiquement, les prévisions de croissance sont enfoncées par la réalité. Donc du coup, vous prévoyez les dépenses publiques, vous prévoyez les baisses d'impôts, vous prévoyez des politiques sociales, et si jamais la croissance n'est pas celle que vous avez prévu, évidemment, vous devez renoncer, vous devez faire marche arrière, et effectivement, vous perdez votre crédibilité.
Vous dites, vous citez la parabole de Pythagore, vous dites, n'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré.
Effectivement, autrement dit...
Ce qui compte en gros, c'est quoi? C'est la sincérité?
La crédibilité.
C'est ça qui... Oui, mais est-ce que c'est pas la sincérité qui fonde la crédibilité?
La réputation, surtout. La réputation et la sincérité, bon, qui peut penser qu'on va être sincère jusqu'au bout? Et parfois, même avec la plus grande sincérité du monde, il suffit, comme disait Alain Garrigou, qu'il vous tombe sur le dos un black swan, une crise financière ou quoi que ce soit de ce genre, un attentat ou autre, votre sincérité, effectivement, finalement, elle est morte, elle est morte-née. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument être crédible, autrement dit, faire en sorte que les résultats correspondent peu ou prou aux annonces et surtout faire preuve de cohérence temporelle.
Mais ça, ça veut dire Bruno Jérôme que les dirigeants politiques peuvent être aussi tentés quand ils sont au pouvoir de manipuler les tendances économiques entre guillemets dans la perspective de l'élection suivante.
Mais en tout cas, ils cherchent à le faire. Ils cherchent toujours à le faire, et la tentation est toujours là. Autrement dit, manipuler un peu les statistiques, faire en sorte que le cycle électoral, effectivement, soit favorable le jour J. Mais ça marche pas souvent. Parfois, les bons résultats servent finalement celui qui vient de vous battre. Donc, c'est pas facile de jouer avec l'économie, mais ça veut pas dire qu'on ne cherche pas à le faire. Et la tentation est toujours là, et les expériences sont multiples, où on voit les politiques essayer de jouer sur le cycle électoral. Effectivement, alors à grands coups d'annonces, à grands coups de relance, de dépenses publiques, de subventions à propos, de saupoudrage. C'est un fait.
Quand vous cherchez à identifier les grandes variables qui expliquent les résultats des élections, qu'est-ce que vous trouvez ?
Alors, ce qu'on trouve, c'est que l'enjeu économique joue un rôle majeur, et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis au moins 40 ans, quand on regarde les sondages sortis des urnes sur les enjeux, on s'aperçoit que l'économique et le social sortent absolument devant tous les autres enjeux. De temps en temps, la sécurité intérieure-extérieure se hisse à la seconde place, comme en 2002, par exemple, ou peut-être comme lors de la prochaine élection, mais à chaque fois, l'économique et le social sont un enjeu principal. Autrement dit, pour les électeurs, c'est très clair, ils veulent élire des gens qui vont les sortir de la situation dans laquelle ils sont, et ils vont aussi un peu voter pour leur porte-monnaie.
Donc en gros, les grandes variables, c'est quoi ? C'est le chômage ?
C'est le chômage.
C'est le pouvoir d'achat.
Bien sûr, la croissance, accessoirement, encore que c'est un corrélat du taux de chômage, hein, bien entendu. Et puis à côté de ça, il faut pas oublier non plus les fondamentaux politiques, que sont l'implantation électorale des partis, y compris local, et il ne faut pas oublier aussi la crédibilité de l'exécutif. Alors aujourd'hui, il y a un débat. On est en train de nous dire, aujourd'hui, il n'y a plus de sortants. Il n'y a plus de sortants, donc il n'y a plus de débat, donc il n'y a plus de bilan. Nous avons quand même Benoît Hamon et Emmanuel Macron qui ont fait partie du gouvernement. Et pendant qu'on discute dans la campagne des affaires ou autres, on s'aperçoit que la crédibilité de François Hollande repart à la baisse en ce moment. De même que notre Premier ministre est reparti dans le rouge. Autrement dit, les gens continuent à intégrer qu'il y a des pilotes à bord et qu'il y a des représentants de ces pilotes qui sont aujourd'hui dans la campagne électorale et qu'ils le veuillent ou non. Ils ont gouverné, et donc ils seront comptables du bilan d'Hollande. Et ce qui veut dire qu'in fine, eh bien, dans les urnes, on le verra, le bilan jouera peut-être un rôle plus important que ce qu'on pense.
Même question qu'à Alain Garrigou, cette ubérisation de la politique, cette idée d'aller demander aux Français de trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes, le rôle de plus en plus important joué par les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça dit ?
Ça dit que le monde politique a effectivement basculé au tournant des années 90, puisque c'est vrai, avant, on sentait quand même que exercer un mandat politique, c'était exercer une magistrature. Et au tournant des années 90, on est tombé dans profession politique. Autrement dit, certains n'ont pas hésité à dire que c'était un job comme un autre. Et là, les choses ont un petit peu basculé, d'où finalement le fait de s'éloigner des fondamentaux. Est-ce que je vais effectivement faire en sorte de créer l'écosystème pour avoir de bons résultats économiques ? Et à ce moment-là, l'élection est une récompense de cela. Eh bien non, on n'est pas du tout là-dessus. On imagine qu'on peut orienter l'élection avec le storytelling, le marketing politicien. On fait le distinguo avec Véronique vis-à-vis du marketing politique. On considère que c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, c'est ce qui a véritablement basculé. Alors, quant à l'ubérisation, effectivement, il me semblait, moi, qu'on élisait ceux qui vont prendre des décisions pour nous,
ouais,
me semble-t-il.
Ouais.
Or, aujourd'hui, certains essayent de faire croire le contraire. C'est-à-dire qu'on on demande aux gens ce qu'ils pensent pour bâtir un programme. Et nous, on sait on sait ce que les gens vont dire. Ce qu'ils vont dire, c'est on veut plus de dépenses publiques et on veut moins d'impôts.
Bruno Jérôme, si on est capable de dire que ce sont ces variables-là, pouvoir d'achat, chômage, qui ont le plus d'impact sur les élections, vous êtes aussi capable de prévoir le résultat des élections.
Tout au moins, on essaye.
Là, il nous reste 30 secondes, donc je vais vous demander de vous mouiller et de nous dire, alors, voilà, que disent vos outils sur l'élection présidentielle de 2017.
En toute humilité, nous pensons que le bilan va continuer à exercer un rôle. Or, on sait que ce bilan est mitigé.
Ouais.
Hein, mitigé. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus excellent. Et compte tenu de ce qu'on a connu dans le passé, eh bien, nous, ce qu'on pronostique, c'est un duel Le Pen-Fillon, malgré tout. Parce que le bilan va compter, effectivement, et parce que les candidats de gauche qui sont en lice vont, d'une façon ou d'une autre, être comptables du bilan. Enfin, je terminerai avec une chose, c'est que les sondages vous annoncent un bloc de gauche aujourd'hui à 50,5%. C'est tout simplement, à quelque chose près, le score qu'avait fait la gauche en 1974, en 1988 et en 1981. Or, nous pensons fondamentalement que le bloc de gauche est beaucoup plus bas.
Merci beaucoup Bruno Jérôme, Alain Garrigou. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission que nous clôturons avec nos chroniqueurs Stéphanie Collot, Benaouda Abdelhaim. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques et responsable aussi des pages livres. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, directeur de la revue Sociétale et le chroniqueur attitré de la Société d'économie politique. Alors, on va commencer cette semaine avec le choix de Christian Chavagneux, qui est un livre paru en anglais, qui s'appelle The Corruption of Capitalism, et c'est écrit par Guy Standing. C'est publié à Londres par Byte. Back, Christian.
Alors Guy Standing, faut rappeler qui c'est, hein, c'est un économiste britannique qui a longtemps travaillé pour l'Organisation internationale du travail, c'est un spécialiste du monde du travail. Il s'est fait connaître en 2011 par un livre qui s'appelle Le Précariat, qui par les hasards de l'édition vient juste d'être publié en français.
Exactement, cette semaine,
donc on peut regarder son précédent livre. Mais là on parle de son dernier livre, donc qui est sorti à la fin 2016 et qui est une analyse plus générale du capitalisme, dont on nous dit, le capitalisme contemporain, qu'il est libéral ou néolibéral ou ultralibéral. Guy Standing nous dit non, pas du tout. Quand on regarde quelles sont les entreprises qui sont vraiment des profits, qui profitent vraiment du capitalisme aujourd'hui, qui sont les acteurs majeurs, elles n'évoluent pas du tout dans un monde libéral. Au contraire, c'est d'abord le monde de la rente immobilière, de la rente financière, de la rente intellectuelle, une explosion du nombre de brevets avec peu d'innovation derrière. Il y a aussi ce que les anglo-saxons appellent le corporate welfare, c'est-à-dire toutes ces subventions, réductions d'impôts, allègements de cotisations, etc., qui contribuent de plus en plus et largement au résultat d'exploitation des entreprises. Il y a le crédit. Alors là, Guy Standing, là, je ne suis pas sur le chapitre sur le crédit, où il dit le crédit, il nous laisse comprendre que le crédit est mauvais par essence. Alors le crédit, je pense, c'est l'un des avantages très forts du capitalisme. On peut plutôt condamner l'excès de crédit, comme la crise des subprimes l'a amené, comme le Fonds monétaire international, la BRI, l'OCDE, toutes les grandes institutions le condamnent aujourd'hui. Il y a le précariat, donc qui refait un petit résumé de son livre précédent, la dégradation des conditions de travail fait que les gens sont de moins en moins couverts, de moins en moins, les salaires évoluent très peu. Il y a l'économie collaborative, qu'il préfère appeler, lui, l'économie de concierge. Hein, pour lui, ce sont des gens qui travaillent comme à la fin du 19e siècle pour les plus riches en étant très peu couverts. Et puis enfin, socialement. Et puis enfin, il y a ce pouvoir économique qui se transforme en pouvoir politique et qui fait que les grandes entreprises sont capables de faire écrire les lois, non pas qui vont instaurer la concurrence, mais qui vont leur bénéficier à elles. Donc tous ces éléments-là font que le capitalisme contemporain n'est pas du tout libéral, il est au contraire tout ce que je viens d'écrire, tout ce qu'il vient d'écrire, et malheureusement, ça se fait largement au détriment des salariés. Il a quelques petites propositions à droite à gauche, c'est l'un des fondateurs d'une grande association internationale du revenu universel, donc bien évidemment, il finit le livre en disant le revenu universel est l'une des solutions, il souhaite que le précariat se révolte, se mobilise. Bon, je lui laisse ses conclusions politiques, mais il m'a semblé que l'analyse économique méritait débat.
Jean-Marc Daniel, il me semble que ce n'est pas très éloigné de certaines thèses que vous avez souvent défendues.
Absolument, j'étais prêt à adhérer à tout ça.
Fustiger cette économie de la rente.
De la rente, il parle du capitalisme, du crony capitalism, comme disent les Anglais, le capitalisme de connivence et tout ça. Donc je m'étais dit, voilà, je vais adhérer à son projet. Et en fait, il utilise des concepts, mais il les tord par rapport à l'utilisation habituelle qu'on fait de ces concepts. Et donc, c'est assez bizarre comme livre, parce que c'est l'utilisation des concepts des libéraux au sens traditionnel du terme américain, comme toute une école qui est en train de naître à Chicago, notamment avec un professeur d'origine italienne qui s'appelle Luigi Zingales. Et puis, il les met dans un cadre où c'est un mélange de...
C'est quoi cette nouvelle école?
Cette nouvelle école qui défend effectivement...
De Chicago.
Alors, ils défendent effectivement le libéralisme en disant, on n'est pas allé assez loin, effectivement, il faut faire de la free market économie et passer du capitalisme de connivence au capitalisme de concurrence. Et donc, dans la connivence, ils dénoncent à la fois les grandes entreprises, les monopoles, mais aussi les monopoles syndicaux, mais aussi les lobbies, mais aussi tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, arrivent à tordre la concurrence. Or, ce qui est intéressant dans la démarche de Guy Standing, c'est que il va par exemple être dans des situations un peu paradoxales où il va dire ben, le libre-échange, ça maintient la rente. Ça entretient la rente. Alors il dit, il ne faut pas avoir la vision du libre-échange des économistes classiques, parce que le libre-échange, ça fait baisser les salaires, et donc ça permet aux entreprises d'avoir davantage de profits, puisque les salaires ont baissé. Or, le libre-échange, c'est davantage de concurrence, ça amoindrit la rente, y compris des capitalistes. Donc, il y a tout un appareil. En fait, sur le plan intellectuel, pour moi, c'est une combinaison entre Thomas Piketty, qu'il cite d'ailleurs dans le livre, en disant que c'est un personnage important, et Jean-Claude Michéa, qu'il ne connaît pas. Vous savez, Jean-Claude Michéa, c'est son professeur de philosophie de Montpellier, qui est devenu le leader intellectuel des conservateurs en étant parti de l'extrême gauche, et donc il dénonce le capitalisme, et il dénonce aussi, et dans le livre de Guy Standing on a aussi ces dénonciations, le travaillisme, c'est-à-dire le travaillisme, la social-démocratie, en disant que ces gens, ils comprennent pas la nouvelle économie, ils comprennent pas la réalité. On en arrive donc avec ça à un produit qui est assez confus. Je prendrai deux exemples pour moi. D'abord, il fait une défense, par exemple, des ludites. Il dit, on n'a pas compris les ludites, ces gens qui cassaient les machines. En réalité, ce qu'il défendait, c'était un style de vie. Et je crois que c'est véritablement le fond du livre. C'est-à-dire, il est nostalgique d'un style de vie. Deuxième contradiction, deuxième chose que je trouve intéressante, c'est, à un moment donné, il dit, le mal anglais, c'est 1986, c'est là que l'Angleterre est rentrée dans une situation de décadence. Mais pour moi, le mal anglais, c'est 1976. C'est le travaillisme, c'est effectivement les politiques de gauche, c'est le FMI, c'est la rente, mais la rente portée par des syndicats, la rente portée par des entités publiques. Et donc, je pense qu'il y a, encore une fois, une torsion des mots, avec comme résultat un bilan, et là, Christian l'a un peu souligné, mais le bilan, après, en termes de proposition, est très mince. C'est-à-dire, il dit il faut réduire la durée de préservation, de la durée pendant laquelle un brevet est préservé. Il faut dire, voilà, le copyright, ça dure trop longtemps, il faut pouvoir utiliser les brevets, remettre les brevets dans la concurrence plus rapidement.
Christian Chavagneux.
C'est vraiment, j'aime beaucoup ce que vient de dire Jean-Marc, parce qu'on montre bien, là, Jean-Marc vient bien de montrer qu'avec son modèle théorique libéral, il devrait se passer des choses. Or, Guy Standing nous montre qu'avec ce modèle théorique libéral, il se passe autre chose. Et donc, pour Jean-Marc, c'est confus, parce que ça va pas avec les conclusions que lui attend de son modèle théorique. Donc, il trouve ça confus. Au contraire, c'est extrêmement clair. Guy Standing est nostalgique de rien du tout, je pense. Mais on voit bien que une partie des critiques de Jean-Marc, une partie est sérieuse, l'autre partie assez idéologique. Ce qui a cassé l'Angleterre, c'est les syndicats. Il nous explique pas pourquoi, mais alors que Guy Standing, bien évidemment, va nous dire...
Ah bah là, pour le coup, les chiffres suffisent, Christian.
Non, les chiffres suffisent pas. Il y a une analyse différente.
Vous avez le FMI au bord
Non, mais je dis pas que l'Angleterre était très bien dans les années 70.
Oui, on peut pas dire qu'elle était bien gérée, quand même.
Non, on peut pas dire qu'elle était bien gérée, mais ça vient d'une longue période historique qui va de l'après-guerre aux années 70. C'est pas si simple que c'est parce qu'il y avait des syndicats que l'Angleterre allait pas au milieu des années 70. Bref, je trouve que Guy Standing est nostalgique de rien du tout. Par contre, son analyse est vraiment très désagréable pour les penseurs libéraux comme Jean-Marc, et c'est un atout supplémentaire de ce livre.
C'est un peu ce qu'on retrouvait chez Philippe Askenazi dans son cette idée
oui,
que chacun
avec l'utilisation aussi du mot rentier,
quelque part chacun, quel que soit son niveau et quelle que soit sa situation, a toujours finalement une rente.
C'est pas ce qu'il dit.
Bon, allez messieurs, on passe au notre deuxième livre.
Un autre rentier d'ailleurs.
Oui, sans doute le choix de Jean-Marc.
Voilà, alors c'est effectivement une entreprise qui peut être considérée comme étant une entreprise en situation
Google.
Google. Donc le livre, c'est le dernier livre de Christine Kerdelan, qui en ce moment est à la tête de la rédaction de l'Usine Nouvelle, donc qui s'intéresse à tout ce monde de l'industrie et de l'économie.
Journaliste économique.
Oui, journaliste économique connu. Et donc le titre en lui-même parle d'ailleurs dans la Google du loup, c'est un très beau titre parce qu'elle raconte effectivement comment Google est en train de prendre le pouvoir sur nos vies, avec une présentation du livre en deux niveaux. Il y a une sorte de roman, de conte, qui se veut plus ou moins inspiré de 1984 de George Orwell, où on décrit la société telle que Google est en train de la façonner. Et puis ensuite, il y a la partie explicative où elle explique comment fonctionne Google, comment Google traite les données, comment Google est en train de réfléchir au transhumanisme. Alors, c'est un cri d'alarme. C'est tellement... Il y a quelque chose d'un peu angoissant dans la façon dont elle présente les choses. Hein. C'est quand même un livre à charge. À l'entendre, les gens qui dirigent Google, c'est des illuminés. Alors, c'est peut-être vrai, mais il y a quand même un côté un peu excessif, je pense, dans la façon dont elle présente les choses. Mais Cet excès fait que le livre est très utile, parce qu'on se dit quand même, il y a quelque chose derrière. Hein. C'est la façon dont tous ces gens pensent, la façon dont tous ces gens se sont accaparés des données sur notre vie privée, la façon dont tous ces gens imaginent le monde futur, la façon dont ils se projettent au travers du transhumanisme. Il y a effectivement une sorte de cri d'alerte que je trouve très utile et très intéressant.
Christian, il y a une forme de paranoïa vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'on exagère ou est-ce que, pour vous, au contraire, derrière les intentions des fondateurs de Google, il y a bien tout ce que nous raconte Christine Carter?
C'est la question que pose le livre et c'est la question qu'on se pose à la fin. Le livre est intéressant, fascinant et un peu terrifiant quand même. Alors moi, j'ai pas du tout aimé le petit roman, les 20 pages. En plus, c'est un peu plus de 20 pages à chaque fois de petits romans, pas forcément écrits avec le meilleur des styles. Et il n'arrive au personnage que exactement ce qu'elle va démontrer après dans les chapitres. Donc je pense qu'on peut dire aux auditeurs de laisser tomber les 20 premières pages à chaque fois, d'aller directement dans son enquête.
En plus, elles sont en italique.
Si
on suit le conseil de Christian, c'est très facile à faire.
C'est très très facile et on peut aller par contre sur le reste du bouquin qui est vraiment très intéressant. Il y a toutes les choses qu'on sait sur Google. Le fait que c'est un moteur de recherche en position dominante, que ça contrôle beaucoup d'informations sur notre vie privée, qu'ils sont un petit peu, ils ont une relation élastique aux impôts, on va dire, qu'eux-mêmes ne sont pas très transparents. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a toutes les choses qu'on ne connaît pas sur Google. Par exemple, je prends l'exemple du domaine de la santé. Alors, il y a les transhumanistes. Hein, il y a tout, visiblement, un petit groupe de gens un peu illuminés chez Google. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est hybrider l'homme et la machine pour atteindre l'immortalité. Enfin, c'est vraiment un petit peu bizarre. Mais à côté de ça, il semblerait que Google soit en train de faire de réels progrès sur la prévention des maladies. Et qu'est-ce que veut Google derrière ça? Google ne va pas se transformer en labo pharmaceutique. De même que quand Google fait la Google Car, il ne va pas se transformer en fabricant d'automobiles. Mais il veut amener des révolutions technologique telle que les labos pharmaceutiques ou les vendeurs de voitures vont être obligés de s'accaparer et d'acheter ces révolutions techniques à Google, et Google va capter une partie de la valeur ajoutée de la création de richesse des acteurs traditionnels. C'est ça en fait le futur de Google. Et là on est vraiment, on se dit c'est peut-être ça, et là on prend effectivement peur parce qu'on a une société qui contrôle nos vies privées, tellement elle a d'informations, contrôle une bonne partie de la richesse, contrôle notre santé à tel point qu'on a un chapitre qui nous dit ça frise l'eugénisme. Alors est-ce que demain l'intelligence artificielle et le développement de l'intelligence artificielle sur laquelle reposent tous ces progrès va dépasser l'homme? Lorsque quand même Christine Cardellan nous dit AlphaGo, vous savez ce logiciel qui a battu le champion du monde du Go, quand on s'aperçoit, quand les techniciens du Go s'aperçoivent que le logiciel a été capable de mentir et de dissimuler ses coups, on a une intelligence artificielle qui est capable de mentir à un humain. Elle se dit, une intelligence artificielle multipliée par 10, par 20, comme l'est en train de le faire Google, est capable de nous mentir? Est-ce qu'on est dans Kubrick? Est-ce qu'on est dans iRobot? Hein, ces intelligences artificielles qui nous mangent et qui mangent l'homme. Alors, elle est tout à fait claire. Elle donne la parole à deux types de scientifiques. Certains disent oui, d'autres disent non, c'est pas possible. Mais à la fin, elle nous dit, de toute façon, on peut pas laisser une poignée d'ingénieurs américains le soin de faire ses choix. Et sa dernière phrase de vidéo, j'aime beaucoup, il faut contrôler Google avant qu'il nous contrôle. Et je trouve que c'est une bonne conclusion.
Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite avec notre chroniqueuse Stéphanie Collo, notre bibliothécaire qui est remontée aux origines du revenu universel cette semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'avant.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Alors, un des éléments phares de cette campagne électorale, ça a été la proposition de revenu universel de Benoît Hamon. Et donc, vous avez décidé de remonter aux origines de cette notion de revenu universel. Et ce sont des origines lointaines.
C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Il faut remonter en fait au XVIe siècle. C'est Thomas More qui y fait allusion dans son livre Utopia. L'ouvrage paraît en 1516 en latin. Et il connaît un succès immédiat. Il sera traduit partout en Europe et il est édité en France dès 1517 à Paris.
Comme quoi on peut connaître un succès fulgurant, même à l'époque des balbutiements de l'imprimerie. Alors, Thomas More, Stéphanie, d'abord, dites-nous en plus, qui est-il exactement ?
Alors, il est né à Londres en 1478, il est juriste, il devient l'avocat de la bourgeoisie londonienne et c'est ensuite qu'il se met au service de la diplomatie du roi d'Angleterre, c'est alors Henri VIII. Il est à la fois historien, philosophe, humaniste, théologien et homme politique, rien que ça. Il s'oppose au mariage du roi, donc Henri VIII et Anne Boleyn, ce qui lui valut d'être décapité en 1535, mais 400 ans après son exécution, canon, l'Église catholique le canonisera. Thomas More, c'est aussi un grand ami d'Erasme, hein, érudit et philanthrope. Il participe en fait au renouveau de la pensée de l'époque et c'est l'un des représentants les plus illustres de la pensée humaniste.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Utopia ?
Alors, en fait, dans la première partie du livre, Thomas More remet en cause la société anglaise, la pauvreté, le pouvoir des riches, l'oppression des plus pauvres. Et dans la seconde partie, il explique comment peuvent être corrigés ces maux. Il détaille en fait son idéal de justice sociale et d'ordre moral. Et c'est cette partie qui prend la forme d'un récit d'un marin qui découvre une île imaginaire qui s'appelle Utopia.
Alors, l'idée de Thomas More, c'est un principe simple. Comment permettre à la fois au système productif de continuer à fonctionner et en même temps, il voit bien que ce système capitaliste en train de naître, eh bien, il crée des inégalités, il crée de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il propose justement pour éviter ses défauts ?
Eh bien justement, en fait, sur cette île, il imagine une société idéale, une république exemplaire basée sur la stricte égalité entre tous les habitants. La propriété privée et l'argent sont abolis. Et pour que tout cela fonctionne, chacun reçoit une allocation de base, de quoi subvenir à ses besoins, sans dépendre d'un travail. Ça permet aussi de limiter et d'éliminer la criminalité. Et cette société imaginaire est fondée sur un nouveau contrat social, sur la dignité humaine où toute forme de pouvoir personnel est empêchée.
Alors, ça paraît effectivement très utopique. Est-ce qu'il donne des détails sur la façon dont fonctionne concrètement cette société ?
Oui, alors en fait, concrètement, chaque famille se voit prêter une maison pendant 10 ans. L'activité principale, c'est l'agriculture. Tout le monde doit être agriculteur pendant au moins 2 ans. Chacun travaille 6 heures par jour. Pour autant, l'oisiveté est interdite.
Donc revenu universel, certes, mais attention, oisiveté interdite.
Oisiveté interdite parce que le temps libre doit être exclusivement consacré aux loisirs. Et les loisirs, ce sont les échecs et l'apprentissage des belles lettres. C'est une société sans impôts, sans misère et sans vol. Il n'y a pas de monnaie. Chacun se sert au marché en fonction de ses besoins. L'île Utopie commerce uniquement les surplus de sa production avec l'étranger et ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour avoir de quoi payer des mercenaires en cas de guerre.
Alors pas d'argent, propriété collective de tous les moyens de production, ça ressemble furieusement à un monde communiste idéal quelque part.
Un peu. En fait, il plaide pour l'égalité sociale, l'autarcie économique, la démocratie politique. Et le sujet de cette cité idéale est un thème récurrent hein. Depuis les Grecs. L'objectif est de réaliser sur Terre une société égalitaire, juste et heureuse. Étymologiquement, l'utopie désigne un lieu qui n'existe nulle part, mais aussi un lieu en vue du bonheur. Donc, c'est pas forcément irréalisable. Laissons le mot de la fin à Lamartine qui disait « Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées. »
Eh ben, c'est à moi de vous laisser le mot de la fin. Stéphanie, merci beaucoup. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre globetrotteur Benaouda Abdelhaim pour ses livres d'ailleurs.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda.
Bonjour.
Alors, on démarre cette semaine, vous démarrez fort cette semaine, hein, avec une étude, je suis sûr qu'elle va faire encore beaucoup parler, la valeur d'actifs de la blancheur. Combien ça rapporte d'être blanc aux États-Unis ?
Plus que d'être noir. Alors, c'est l'inégalité de patrimoine aux États-Unis de par sa couleur de peau, évaluée et expliquée par des universitaires du Massachusetts. Le document se veut un briseur de mythes en exploitant en particulier les enquêtes quantitatives de la réserve fédérale américaine. Globalement, aller à l'université ne réduit pas l'écart de richesse entre un noir et un blanc, ou bien un latino-américain et un blanc. Être dans une famille avec papa et maman, père et mère, en clair, ne pas être divorcé ou issu d'un foyer monoparental ne réduit pas l'écart de richesse. Travailler à temps complet, non plus. Économiser davantage sur ses revenus pour se constituer un patrimoine, non plus. Ces quatre facteurs améliorent pourtant le patrimoine d'un Africain-Américain ou d'un Latino-Américain, mais cela ne modifie pas vraiment la comparaison avec le foyer médian correspondant blanc. La richesse de l'Africain-Américain médian diplômé de l'enseignement supérieur s'avère 7,2 fois inférieure à celle du Caucasien médian diplômé de l'enseignement supérieur. Je reprends la terminologie américaine. Ça va même au-delà. L'étude revient sur une recherche de l'université de Duke qui relève qu'à statut et revenu comparable, les Noirs dépensent moins aussi parce qu'ils accèdent moins au crédit bancaire, le crédit qui permet de former un patrimoine immobilier notamment. Et puis il y a un autre facteur décisif, selon Amy Traube et ses co-auteurs, les donations familiales et l'héritage. Le rapport est de 1 à 5 entre un foyer noir et un foyer blanc. De génération en génération, le rattrapage de l'écart en est rendu statistiquement, tout du moins encore, plus improbable.
Direction le Moyen-Orient, Ben Aouda, les protestations du printemps arabe et les résultats du marché du travail des femmes.
Ça concerne l'Égypte, une publication du Forum de recherche économique de Gizeh en Égypte. L'analyse de l'effet de la révolution de 2011 pour les Égyptiennes qui travaillent. Les trois auteurs expliquent qu'ils ont bâti leur étude à partir du nombre de tués par gouvernorat durant les protestations. Le territoire égyptien compte 27 de ces divisions administratives, éléments censés dans l'optique de ces chercheurs, bien sûr, d'établir une intensité de la révolution par zone et ainsi refléter plus précisément le niveau de bouleversement du marché du travail. Alors, pages 10 et 11, on peut voir comment la variable du martyr, je cite, est mise en équation mathématique afin de comprendre le propos, l'analyse empirique présentée ici. Nelly El-Malach et ses collègues n'écartent pas pour autant la discussion de la validité de cet argument d'un point de vue scientifique. Mais cette phase de bouleversement de l'histoire égyptienne a conduit à une relative augmentation de la force de participation des femmes au monde du travail. Les protestations ont pu encourager les femmes à s'engager dans la vie active en recherchant activement un emploi rémunéré. Leur taux d'emploi dans le secteur privé progresse ainsi globalement de 9%. Mais les auteurs rappellent toutefois que la participation des femmes égyptiennes au marché du travail reste très bas. Et s'il y a eu évolution, elle est à court terme, essentiellement due à la nécessité pour soutenir, faire vivre le foyer, plutôt qu'un changement des normes sociales égyptiennes.
De se substituer aux hommes.
C'est exactement ça. Hein. L'étude, en tout cas, ne se hasarde pas à extrapoler pour le long terme.
On termine, Ben Aouda, avec une étude relative au transport aérien et plus spécialement aux aéroports.
L'impact des contraintes des capacités aéroportuaires sur les tarifs aériens. Le passager aérien en Europe paye son billet plus cher parce que les aéroports sont congestionnés. Alors c'est ce qu'entend démontrer ici dans un épais document, il y a plus d'une centaine de pages, le bureau de recherche SEO d'Amsterdam aux Pays-Bas. Alors le surcroît de prix dépasserait ainsi annuellement les 2 milliards d'euros pour les passagers européens. Le manque de capacité aéroportuaire aboutit à une limitation du nombre d'arrivées et de départs aux heures et aux jours d'affluence. La corrélation établit quand le niveau de contrainte de capacité augmente de 10%, la hausse moyenne du tarif qui en découle varie de 1,4 à 2,2%. L'accès au marché se bloque, ce qui réduit l'incitation à entrer sur tel ou tel marché aéroportuaire. Et en fin de compte, ça réduit la nécessité commerciale pour les compagnies de faire baisser le prix de leurs billets. Et cette pénurie d'infrastructures devrait continuer d'alourdir le surcoût pour le passager. La projection, c'est 3x3 d'ici à 2035. Et à cet horizon, 12% du potentiel de vols commerciaux en Europe ne pourra pas être satisfait. Il y a là un plaidoyer sans détour pour une expansion des aéroports. Mais les auteurs expliquent qu'il ne peut pas y avoir de solution globale. Il faut des solutions locales, au cas par cas. L'ACI, l'organisation professionnelle des aéroports européens, fait en tout cas de ce rapport un argumentaire de lobbying. Elle affirme que ce sont les compagnies établies, les grands transporteurs aériens, qui collectent une rente de la pénurie, d'où leur opposition farouche à un relèvement des redevances aéroportuaires.
Merci beaucoup, Ben Aouda, pour ces travaux passionnants. Allez, c'est l'heure de vous faire part de nos ultimes choix pour cette émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quel est votre ultime choix pour
Alors,
cette émission?
Alors, mon ultime choix, je suis resté dans la logique de Google et du transhumanisme. J'ai choisi le livre de Guy Valencien. Guy Valencien, c'est un chirurgien, un neurologue connu à Paris, à la fois pour ses qualités de médecin et puis ses qualités d'essayiste. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Homo Artificialis, où il, d'ailleurs, le sous-titre dit plaidoyer pour un humanisme numérique. Et donc, il dénonce un peu ses illusions transhumanistes, l'éternité de l'homme et tout ça, mais il démontre en fait que, en réalité, que effectivement, la médecine va bénéficier du numérique et donc c'est une façon un peu de redescendre sur terre par rapport à certaines envolées lyriques sur le transhumanisme, l'immortalité, sur la vie de demain.
un grand médecin. Christian Chavagneux, dans votre choix, on sent que c'est bientôt le salon de l'agriculture.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, vous vous rappelez cette petite publicité avec ce livre.
Qui sera de plus en plus long.
Oui, absolument, grâce au transhumanisme, ça peut être éternel. Oui, mais avec pas beaucoup de lait, peut-on espérer, quand on a lu ce livre de cette journaliste québécoise, parce que contrairement à ce qu'on croit, le lait ne nous fait pas du bien, ça renforce pas nos os. Vous savez que les vaches donnent du lait lorsqu'elles allaitent, en fait, donc elles sont bourrées aux hormones de grossesse qui sont dans le lait que nous ingérons, donc ça peut créer des surprises. C'est aussi pas du tout un produit écologique. Et vous savez qu'en fait, tous les nourrissons ont l'enzyme qui permet de digérer le lait, mais qu'il s'en va au fur et à mesure qu'on grandit. Et en fait, il n'y a qu'un quart de la population mondiale qui dispose de cette enzyme pour digérer le lait. Donc on a beaucoup trop de lait, yaourt, fromage, etc., lait du matin. Il faut réduire le lait. Et à la fin, pour ceux qui seraient un petit peu désabusés, il y a même un petit guide sur quels sont les substituts au lait qui vous permettent de bien manger, voilà, pour la santé.
Pour la santé, voilà. Je ne sais pas si on va s'amuser à table, hein, Jean-Marc. Mais en attendant, ce sera bon.
Pas forcément ce qui est de plus.
Pour la santé. Allez, moi je termine avec un roman. Un roman écrit par le journaliste Didier Audebert, et ça s'appelle Le dernier chômeur. L'auteur nous plonge dans un pays qui est géré comme une entreprise par un super président qui a instauré la dictature du plein emploi. L'inactivité est devenue hors la loi. Vous avez des milices qui chassent les récalcitrants pour soutenir l'effort national. Il n'y a donc plus de chômeurs, sauf un qui revendique contre tous seul le droit de ne rien faire. Et donc, on passe un très bon moment avec ce roman autour de cette réflexion, finalement, sur le travail. C'est publié chez Albin Michel. C'est drôle et vous verrez, vous aussi, réfléchirez sur ce qu'est le travail, trop ou pas assez. À vous de voir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.